Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot pour une spéciale présentée par Eladji Makalou et avec nous aujourd'hui Alfred, Cheikh Kenza et Monsieur Salé. Comment allez-vous messieurs? Alfred?
Je vais très bien, un peu fatigué mais bon, ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver.
Merci Alfred. Et toi Cheikh Kenza, comment ça va?
Ouais, je vais très bien.
Tu vas très bien. Prêt pour le match de demain?
Ouais, je suis prêt.
T'es prêt, hein, d'accord. Et toi Salé, comment ça va? Désolé, hein, j'ai la voix cassée, hein, mes chers auditeurs et auditrices. Voilà, j'ai un peu la voix cassée à force de crier à chaque fois pendant les matchs. Voilà, aujourd'hui, on va revenir sur l'opposition entre la RDC et la Guinée, qui s'est soldée par un 3-1 en faveur des Léopards. Et aussi, on revient sur le match du Nigeria face à l'Angola. Le Nigeria qui se sont imposés sur la plus petite des marges avec un petit but. 1-0. Alfred, ton ressenti sur le match du Nigeria-Angola?
Dans l'ensemble du match, de tout ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, comme vous avez dit, le Nigeria présentait une formation qui, ma foi, avait toutes les assurances de pouvoir avancer au niveau de cette compétition. Quant à l'Angola, elle a fait bonne impression. Au départ, comme je dis, tout le monde était motivé dans l'ensemble, surtout son dernier match ici. Mais à un certain moment donné de la compétition, on a vu un peu que l'Angola pratiquer un jeu qui n'allait pas au bout des actions. Du fait qu'il y avait une certaine lenteur, donc ça c'était un peu visible. Mais quant au Nigeria en elle-même, c'est que le Nigeria a un bloc défensif très solide. Et le match s'est joué sur les individualités nigérianes. Osimhen a fait jouer sa maturité, son expérience en pesant. Mais Moses Simon et les autres ont confirmé à tout moment qu'ils pouvaient eux, à tout seul, être décisionnaires. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc si le Nigeria continue comme ça, voilà, de façon honnête, le Nigeria est un prétendant sérieux pour cette coupe. Donc il va falloir respecter le Nigeria.
Bien sûr, bah là de toute façon, ils sont plus qu'à deux matchs de la remporter. Encore deux victoires, ils auront remporté cette 34e édition. Hein. On est obligé de les prendre au sérieux. Il reste plus que quatre équipes. Enfin, pour l'instant, il y en a deux de qualifiés. On connaît déjà les Léopards et le RDC. Ensuite, le Nigeria.
Et encore, ces Nigériens-là ont un mental très fort. Et du coup, les déboulonner, c'est pas quelque chose de facile. Donc du coup, c'est cet aspect-là que le Nigeria, cette force-là que le Nigeria utilise pour pouvoir dominer ses adversaires. Donc déjà, les défenseurs derrière, ils font bloc, ils avancent, ils réagissent quand il s'agit de réagir. Et bon, après, comme je vous dis, les individualités réagissent. Et aussi même, franchement, je peux vous dire, si le Nigeria arrive à atteindre la finale, on pourrait dire que voilà, chapeau, Osimhen aura tout gagné. Parce que voilà, terminer avec la Naples, être élu meilleur joueur, donc voilà, cela confirme vraiment ses performances. Ça, c'est à saluer. Mais c'est un pays qui est vraiment très organisé, sérieux dans tout ce qu'ils font, donc surtout un mental de fer, pour moi.
Et surtout que, je tiens à rappeler, hein, ils ont enchaîné les clean sheets, en fait. Hein. Ils ont une très bonne défense avec un très bon gardien. Cheikh Kenza, toi, dis-moi, c'est quoi tes impressions sur ce match?
Oui, dans ce match, vraiment, on a vu un Nigeria qui récidive de la bonne manière. On voit que vraiment le message du coach passe très bien. On a vu un Tress Ekong qui était vraiment très bien dans l'animation défensive. On a vu aussi Osimhen vraiment qui s'est battu aussi comme il avait fait au précédent match. Mais j'ai vu une équipe d'Angola vraiment qui a eu des occasions à un moment donné, ouais, qui pouvait même sceller le sort du match, mais qui n'a pas été vraiment concret dans l'acte final.
On repense au but de Osimhen, notamment au but d'Osimhen qui a été refusé.
Oui, oui, vraiment, c'est une position, voilà, c'est une position illicite. Là, il était hors jeu. Après aussi, on a vraiment l'équipe d'Angola vraiment qui est revenue vraiment dans son match à un moment donné. Mais vu que le Nigeria, ils ont un bloc très très défensif, un bloc compact, c'est-à-dire la perte du ballon, on a l'impression qu'il y a 9 joueurs qui sont concernés par ça. Donc je pense qu'ils ont une ligne des 5 et une ligne des 4 qui défendent très bien. Donc ça posait pas mal de problèmes à l'adversaire. Et après, ils ont pu saluer le sort du match. Et le match s'est terminé, c'est un score de 1-0. Vraiment, je pense que l'Angola aurait pu faire mieux. Mais vu que c'est le football, par moments, ça arrive. Donc moi, je compte vraiment aussi pour le Nigeria pour être un prétendant au titre. Parce que là, vraiment, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, ils sont encore dans la même position. Et un bloc qui défend très, 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 très bas. Par moment qui arrive à monter haut et puis une contre-attaque éclair avec un Moses Simon qui est en feu mais qui fait tout le taf sur le côté qui ramène un ballon au point de pénalty. Lookman n'a plus qu'à concrétiser.
Oui, c'est vrai que c'était une action très bien menée par les Nigérians, oui. Et très bien menée. Voilà, comme tu as tout résumé, hein, Lookman avait juste à la pousser dans le but, dans les cages pratiquement vides, quoi. Mais c'est vrai que le Nigeria, même dans le jeu, ils sont très disciplinés. On ressent tout de suite un plan tactique et ils s'y tiennent vraiment. Et je pense que c'est ce qui font leur force.
Oui, vraiment. Ils ont une bonne équipe.
Salé, toi, dis-nous, c'est quoi tes impressions sur ce match?
Moi, personnellement, pour pas étonné du Nigeria, c'est un bloc très, très costaud, très défensif. Ils ont un bloc vraiment resserré. Et ils jouent en 3-5-2, en 3-5-3, si j'ai pas de bêtises.
3-4-3.
3-4-3 plutôt. Et franchement, devant Osimhen, je pense qu'il est en mission. Parce qu'il mouille le maillot, il va presser. Et ce que je vois sur Osimhen, c'est qu'il joue beaucoup pour l'équipe. Il est pas égoïste. Et franchement, ça se voit qu'il court pour l'équipe. Il s'appuie vraiment sur Lookman et Simons. Et que Lookman et Simons aussi jouent vraiment, sont vraiment autour de lui. Et ça va vraiment très, très vite devant. Et derrière aussi, c'est très compact. Aïna et l'arrière-gauche, j'oublie comment il s'appelle, Zedou, je crois. Et franchement, c'est très costaud. Ça va vite vers l'avant, ça défend. Franchement, rien à dire. L'Angola aussi fait un très beau parcours. Une belle équipe aussi, qui est franchement un beau bloc aussi. Mais les gens étaient plus costauds et plus réaliste devant le but.
Oui, bien sûr. On rappelle le Nigeria, hein, sur leurs 4 derniers matchs, quand même, c'est 4 clean sheets. Hein. 4 clean sheets face à qui? Parce qu'on voit les adversaires quand même, hein, face à la Côte d'Ivoire, même si on sait que c'était une équipe un peu diminuée. Face à la Guinée-Bissau, une très belle équipe, et face au Cameroun, et face à l'Angola maintenant. Ils ont enchaîné 4 clean sheets. Bon, après, à chaque fois, je pense qu'offensivement, ça manque peut-être de réussite, mais ça passe. Un but, ça suffit. Ils ont gagné 2-0 seulement contre le Cameroun, mais le reste, 1-0, et ça suffisait pour qu'aujourd'hui, ils soient invaincus de cette compétition. Et Lookman, qui est à 3 buts, qui se rapproche de Nsou. Nsou qui est à 5 buts, on rappelle, et un joueur équato-guinéen qui a été éliminé au dernier tour. Du coup, voilà, franchement, ça fait une très belle équipe de Nigeria et moi, j'ai hâte de voir la demi-finale. Et maintenant, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pensé aussi du match entre la Guinée et les Léopards, la RDC?
Alfred. En début de match, faut reconnaître que la Guinée avait commencé à donner bonne impression et que la RDC était en période d'observation. Mais à un certain moment donné, comme je dis, il y a eu le premier pénalty, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça peut-être qui a changé un peu les choses. Après, il y a eu un excès de... Il y a eu une... Comment on appelle ça
Un excès de confiance.
Non, pas un excès de confiance. C'est-à-dire que je disais que quand le libéro congolais a occasionné, a provoqué le pénalty, je pense qu'il a fallu agir de façon responsable. C'est-à-dire qu'en tant que grand capitaine, réagit. Mais il faut reconnaître que dans l'ensemble de l'équipe de la RDC, il y a des individualités qui sont là, qui, ma foi, à tout moment, peuvent changer les choses. Donc je pense que peut-être que, pour moi, si on suit bien la compétition, des équipes comme, par exemple, la Guinée, comme l'Angola, elles ont tenu. Mais aujourd'hui, on avance dans une phase où, ma foi, c'est, je dirais, il faut, c'est l'endurance et il faut pouvoir tenir. Donc pour enchaîner ou à finir, ma foi... Les quarts de finale, ça demande, je sais pas, de la résistance. Et moi, je pense que c'est sur ça que la maturité congolaise, elle a joué pour pouvoir gagner. Parce que les occasions, on ne peut pas dire que les Guinéens n'ont pas reçu. Ils en ont eu. Maintenant, pour moi, je pense qu'au niveau même du coaching, je pense que Kaba Diawara a quand même fait une petite bourde en mettant Guirassy comme remplaçant, parce que c'est quelqu'un voilà, qui marque, qui après, est décisionnaire.
Oui, après, il
voilà.
faut savoir que...
Après, s'il est blessé, c'est autre chose.
Il était blessé, il est revenu, hein, puisque le dernier match, il a joué, voilà, il était titulaire.
Voilà.
Mais maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, le dernier match où il a été titulaire, ils ont joué contre la Guinée équatoriale. Mmh. Ils ont eu du mal, la Guinée. Ils ont eu du mal offensivement, en tout cas, ils ont eu du mal. Il avait aligné un Guirassy, Mbayo. Ça n'a pas aussi bien fonctionné que quand Guirassy n'était pas là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il a essayé de remettre une nouvelle recette. Bah, en fait, avec quoi il gagnait, quoi, il a essayé de remettre ça en place.
Moi, je partage ton avis. Mais après, il faut reconnaître que, tu sais, quand on regarde la morphologie des jeunes Guinéens, ils sont un peu jeunes, ils ne sont pas aussi robustes comme la défense, comme les joueurs de la RDC. Donc ça aussi, c'est un facteur qui est très important, qui fait que voilà, les gens d'Afrique centrale essaient d'utiliser cette force-là pour pouvoir déstabiliser les jeunes. Sinon, quant à l'organisation du jeu en lui-même, la tactique, les jeunes guinéens, ils sont là. Donc pour moi, il y a un peu eu un peu de physique, voilà, un peu de, voilà. C'est ça qui a joué un peu en défaveur pour la Guinée. Mais sinon, comme je dis, bon, ben voilà, c'est le sport, c'est le sport. Bon, voilà, ils ont gagné, ils ont perdu. Mais bon, franchement, moi, je pourrais dire que faut féliciter la Guinée, hein, parce que voilà, là où elle est rendue avec ces jeunes qui sont là, c'est prometteur. Voilà, moi, pour moi.
Oui, bien sûr que c'est prometteur. Ils ont atteint un quart de finale. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas atteint le quart de finale. Mais c'est des faits de jeu, quoi. On a bien vu, hein, la RDC, tout de suite, hein, dès qu'ils ont pris le but, Chancel Bemba, tout de suite, il s'est dit la mentale. Et c'est un joueur qui a la mentale. Et il l'a prouvé encore aujourd'hui. Il a provoqué le pénalty. 7 minutes après, il a marqué. 7 minutes après, il a marqué 1-1. Maintenant, ça cogite dans la tête des Guinéens. Et ce qui est un peu, on va dire, malheureux, c'était sur le 2-1, il y a eu un pénalty. Juste avant le pénalty, la Guinée ont de quoi prendre l'avantage. Ils jouent un 2 contre 1. Un 2 contre 1 où, je ne me rappelle plus du nom du joueur, qui loupe sa passe, Kanté.
Kanté qui rentre en plein milieu du match.
Voilà, Kanté qui rentre, et c'était pour l'un de ses premiers ballons. Voilà, c'était pour l'un de ses premiers ballons. Et ils sont deux face au gardien, il doit la décaler. Où il doit tirer. Et là, il essaye de la donner, mais il la donne mal. Et dans ces moments-là, ça paye cash. Parce que c'est le haut niveau. Et tout de suite, c'est parti en contre-attaque. Le Congo ont puni, tout de suite. Ils sont retournés. Hop, Silla qui rentre dans la surface, lui aussi, c'était l'un de ses premiers ballons. Penalty provoqué tout de suite. Huissa qui le transforme. 2-1. À 2-1, la Guinée sont un peu droguées encore. Ils jouent 10-15 minutes. On fait rentrer Guirassy. On essaye de changer tactiquement. Mais... À 2-1, même, on voit les Guinéens, on dirait qu'ils n'y croient pas trop. Voilà, ils jouent sans... Et après, le coup de massue, bah, c'était le coup franc. Voilà. Toi, Alfred, qu'est-ce que tu as pensé de cette opposition pardon, chez Kenza.
Ouais, moi, je pense que vraiment, cette opposition, on a eu une belle rencontre. Parce que là, vraiment, dans la possession, la Guinée vraiment était meilleure. Parce que la Guinée a eu 63% de possession. En termes de tir cadré, ben, c'est un peu équilibré. Je pense que la Guinée, dans le temps de match déjà, Kaba Diawara, il avait une consigne qui était bien respectée. Parce que dans le temps de match, on a vu une Guinée vraiment qui attaquait, vraiment qui était en place statiquement, avec vraiment qui avait une très bonne ligne au milieu de terrain. On a senti vraiment Naby Keïta qui jouait vraiment, qui avait de l'impact sur le jeu et tout ça, qui arrivait vraiment à ressortir des ballons proprement, des ballons profondeur et tout ça. Mais ce qui a été un peu le souci de Kaba Diawara, c'est au retour des vestiaires. C'est-à-dire, dès qu'ils sont à 1-1 au retour des vestiaires, il fait un coaching, pour moi, qui n'est pas un coaching payant. Parce que là, vraiment, ton équipe est bien dans le match, même si vraiment tu veux gagner le match à tout prix. Dès l'instant que tu fais ce coaching, et les deux joueurs qui rentrent, après ça, on a comme l'impression que l'équipe est désorganisée. On avait Isiaga Silla qui était très, très bien sur le flanc gauche, déjà en latéral gauche. Voilà, qui faisait des percées et tout ça, et même qui arrivait vraiment à jouer des longs ballons, qui était très très bien. Dans l'attitude défensive aussi, il était très bien. Il était couriace. Et tu fais sortir aussi un Guilavogui vraiment qui était très bien aussi sur l'aile droite, qui arrivait vraiment à dédoubler vraiment avec Ibrahim Diakité. Et à la sortie de ces deux joueurs, on a une équipe de Guinée qui est méconnaissable dans l'ensemble, c'est-à-dire vraiment qui laisse un peu le jeu à l'adversaire. Et du coup, ben, les Congolais, ils ont profité vu qu'ils ont l'expérience. Après, la Guinée, c'est une équipe très jeune. C'est une équipe très jeune déjà, qui a un fort potentiel, qui peut rebondir, pourquoi pas, aux prochaines séances, c'est-à-dire la CAN 2025 déjà, qui est pas loin. Mais je pense que Kaba Diawara, dans l'ensemble, il y a du positif, parce que par moments, on se trompe. Voilà, et c'est normal, vu qu'il a voulu faire, il a voulu tenter un coup et ça n'a pas marché. Je pense qu'il,
moi, je ne pense même pas qu'il a voulu tenter un coup. Il a joué comme comment il jouait d'habitude. Mais moi, ce que je pense, voilà, généralement, c'est dans tous les cas, on va le critiquer quoi qu'il arrive. S'il perd, on va le critiquer. Tout de suite, on va mettre la faute sur lui. C'est ça le problème. Or que quand il joue une contre-attaque et ils sont deux, c'est pas Kabadiawara qui est à la place du joueur de Conte, non, c'est Conte qui doit assurer sa passe, et s'il assure sa passe, je suis sûr qu'il y a 2-2, et là c'est plus le même match. Donc, et là à ce moment là est-ce qu'on remet Kabadiawara en doute? Non, moi je pense qu'il y a des fois faut passer outre. Si c'est pas une grosse fausse tactique, c'est les joueurs sont sur le terrain. Kabadiawara il ne peut pas rentrer sur le terrain et jouer.
Vraiment, je ne vais pas t'interrompre quoi, quand tu le dises. Même si Kabadiawa, il ne peut pas rentrer sur le terrain, mais dès l'instant que son équipe est en place vraiment tactiquement et tout, c'est des choix forts. Issa Gassila, il est titulaire dans cette équipe de Guinée, ce n'est pas maintenant. Je pense que Issa Gassila, ça fait pas mal de temps qu'il est là. Et c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience dans ce genre de match. Il faut des joueurs expérimentés. Par exemple, Guy Lavogui, moi, j'ai beaucoup aimé sa canne parce que Guy Lavogui, c'est quelqu'un vraiment qui est dans la percussion et tout. Et même ses répliques défensives, c'est très bien. Et il participe aussi à la récupération du ballon. C'est quelqu'un qui défend beaucoup. Et il y avait une très belle complémentarité entre Guy Lavogui et Ibrahim Diakité. Donc, moi, je pense que ça a été un choix vraiment qui a été payant, une erreur de l'entraîneur, parce que oui, c'est ça le but, c'est l'entraîneur aussi décide, même si les joueurs doivent le faire, mais par moment, quand il y a un faux coaching, il faut reconnaître.
Oui, mais là, je ne suis pas d'accord du tout avec toi, Chekinza. Salé, toi, dis-nous, quelles sont tes impressions sur ce match?
La Guinée, c'est, je vais parler un peu de la Guinée, c'est une équipe qui est en reconstruction, il y a beaucoup de jeunes, Kabadjawa, il reprend l'équipe il y a 2 ans, là, sur cette édition, ils arrivent à aller en quart de finale. Et il a un style de jeu en fait qui était plus pour moi défensif, dans le sens où c'est un bloc qui reste vraiment en place et qui attend l'adversaire et qui essaye de partir en contre-attaque. Et après, pour revenir rapidement sur le dernier match contre la Guinée équatoriale, pour moi ils ont échappé belle. Ils marquent le but à la dernière minute, par Bayo. Et Guirassy, il entre en jeu, il fait des différences. On a vu qu'offensivement c'était plus intéressant. Je pense que Kabadjawa a voulu repartir avec les deux de devant par rapport à l'entrée de Guirassy qui avait été quand même assez intéressante. Et malheureusement, elle est tombée sur un Congo qui était pour moi le Congo, il n'a pas volé sa victoire. Hein. Le Congo, c'est une belle équipe, il y a un gros effectif. Et j'aimerais souligner aussi Chancel Mbemba, c'est un gros, franchement pour moi c'est le meilleur défenseur de la CAN et c'est un patron, faut le dire. Et il arrive à amener l'équipe avec lui, c'est un vrai capitaine, il a une grosse mentale. Et comme tout à l'heure tu l'as dit, là, il a provoqué le penalty, mais derrière, j'ai pas senti le Congo paniquer ou autre. Il dirait qu'ils ont rebondi. Et derrière, il y a Wissa aussi, qui faut le souligner aussi, qui fait une très belle canne. Et franchement, même dans ce match-là, franchement, il est très très bon. Il n'y a rien à dire.
Et Silas voilà. Qui apporte toujours cette petite fougue.
C'est exactement ça. Et pour moi, la Guinée, c'est pas au retour des vestiaires. C'est plutôt quand il y a eu le changement et que Conte. Il avait deux choix, soit tirer, soit la donner proprement à son coéquipier qui est juste à côté de lui. Et moi, personnellement, je pense qu'il s'est plutôt. Je pense qu'il a paniqué. Parce que normalement, tu dois avoir de la lucidité. Quand tu as ce genre de situation, tu dois avoir de la lucidité de soit tirer, soit la donner à ton coéquipier. Et ça passe, il est complètement raté. Et derrière, tu te fais punir directement. Et je dis toujours dans le football, quand tu rates des occasions importantes, surtout à un certain niveau, et bah derrière tu te fais punir et c'est ce qui s'est passé. Et derrière ça enchaîné avec le Congo qui met le deuxième, le troisième et qui aurait même pu mettre un quatrième.
Oui, je pense que t'as très bien résumé, le match, Salé. Hein. Merci pour ton analyse. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ces matchs-là. Hein. Voilà, c'est dommage pour ces deux équipes, mais le Nigeria qui seront qualifiés en demi-finale et qui affronteront le victorieux du match entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, et aussi le Congo qui sont imposés 3-1 et qui joueront face au vainqueur du Mali-Côte d'Ivoire demain à 18h. Et on peut se lancer déjà sur ce match-là. Mali-Côte d'Ivoire, Alfred, quels sont tes pronostics?
Honnêtement, ce sera un match très ouvert. Mais comme je dis, il ne faudra pas que les Maliens arrivent, ma foi, complexés. Parce qu'il ne faut pas se référer au passé historique en disant que oui, la Côte d'Ivoire gagne tout le temps. Même si la Côte d'Ivoire viendra avec un atout qui est, ma foi, son peuple. Après tout, il y a des Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est des frontières à côté. Donc pour moi, il faut avoir un mental très fort. Parce que le Mali a la possibilité de battre la Côte d'Ivoire. Comme je dis, la Côte d'Ivoire essaie de qualifier, certes, mais bon, comme je vous dis, voilà, la Côte d'Ivoire n'a pas jusqu'à présent convaincu. Je prends un exemple simple, par exemple, voilà, aujourd'hui, l'Angola est éliminée, mais l'Angola, elle a fait preuve quand même, comme quoi, voilà, on pouvait la considérer dans cette compétition. Donc la Côte d'Ivoire, elle arrive par rapport à avant un meilleur quatrième ou quoi, elle a gagné sur pénalty, oui, c'est vrai, il faut féliciter ça, mais demain, je pense que ce sera un match très ouvert. Très ouvert, donc voilà, pour moi, si les Maliens ne viennent pas être, s'organisent bien, c'est, voilà, comme je dis, c'est des 15 premières minutes qu'il faut tuer le match. Une fois qu'ils ont, voilà, ils ont réussi à faire, tant mieux. Mais bon, comme je dis, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais pour moi, le Mali pas favori, pour moi.
D'accord. Et toi, chez Kenza?
Ouais, moi, je vois vraiment une très belle rencontre avec deux équipes vraiment qui se connaissent très bien. Oui, parce que oui, c'est deux équipes vraiment qui se connaissent très bien. Mais concernant Eric Sekouchel, vraiment qui est un très bon entraîneur, qui fait un travail remarquable depuis maintenant, hein, pratiquement plus de 2 ans avec le Mali, même si par moment tout n'est pas rose comme il le souhaite. Mais je vois une équipe du Mali d'entame de match qui va attaquer, qui va se donner la chance de battre, qui ne va pas se référer plutôt au passé historique et tout ça. Et du côté de la Côte d'Ivoire, et je crois que vraiment, j'ai suivi un peu le message du coach FAMS qui a demandé d'être humble, de ne pas, voilà, mais que ces joueurs se doivent vraiment de faire plus. Donc, on aura une confrontation ouverte dès les premières minutes. Et pour l'instant, moi, je vois la Côte d'Ivoire favori parce que le Mali a tendance à pencher un peu dans les phases d'élimination directe. Parce qu'on le regarde, oui, les matchs, il y a beaucoup de pression, le groupe n'arrive pas à gérer. Mais c'est pas la première fois, même. On l'a vu à la qualif de la Coupe du Monde, et les matchs à pression, on a tendance que les joueurs sont un peu fébriles. Si Eric Sekouchel arrive à régler ce problème, je pense que le Mali, vraiment, pourrait passer. Mais là, moi, je vois la Côte d'Ivoire favori.
D'accord, merci, Chekenza. Et toi, Salé, qui a la double nationalité, déjà, tu vas commencer par nous dire qui est-ce que tu supportes demain, quel maillot tu auras demain. Parce qu'on a vu des montages ou même des vraies coutures, hein, où il y en a, ils avaient la moitié Côte d'Ivoire, moitié Mali. Mmh. Nous, on n'aime pas trop ça, on aime un seul maillot unique. Du coup, dis-nous quelle sera ta tunique demain.
Non, ma tunique de demain, elle sera malienne. J'ai un coup de cœur pour le Mali, plus de ce côté-là. Et ce match-là, je pense que ce match, déjà, il va jouer au milieu de terrain. Parce que là, c'est là que ça va jouer. Parce qu'il y a deux gros milieux de terrain. Et je pense que ce sont les meilleurs milieux de terrain d'Afrique. En n'ayant pas peur de le dire. Ça va jouer. Moi, pour moi, ça va jouer là. C'est celui qui gagne la bataille du milieu de terrain, il aura l'avantage sur le match. Et la Côte d'Ivoire. J'attends de voir, parce que contre le Sénégal, faut pas oublier que le Sénégal, pour moi, n'a pas joué. Ils ont marqué le but, ils ont reculé. Et ils ont fait que de reculer. Ils ont jusqu'à la fin du match. Et au bout d'un moment, la Côte d'Ivoire, ils ont eu un pénalty. Et derrière, Côte d'Ivoire a pris l'avantage. Mais ce match-là, j'attends de voir la Côte d'Ivoire, parce que, comme je l'ai dit, ouais, par rapport à ça. Et le Mali, franchement, je pense pas qu'ils ont de la pression. Ils vont jouer ce match, ils n'ont rien à perdre. Il y a une stat qui est présente, qui dit que le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire dans un match officiel. Et moi, je dis toujours que l'histoire, elle est faite pour être cassée. Et je pense que les Maliens, ils peuvent aller le faire. Ils n'ont pas peur. Et la pression, elle est plutôt du côté de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont fait contre le Sénégal. Les gens ne retiennent que ça. Mais si la Côte d'Ivoire gagne demain, je pense qu'il n'y a plus rien qui pourra les arrêter pour gagner le titre chez eux. Ils seront, en tout cas, un candidat très sérieux. Mais il faut regarder les matchs, et moi je pense que c'est du 50-50 et ça peut jouer dans les deux côtés. En tout cas, ça va se jouer sur la bataille du terrain.
Mais moi, mon souhait, c'est que le Mali gagne pour la mémoire de Salif Keita Domingo.
Domingo, la panthère noire.
Merci Alfred pour ces belles paroles. Maintenant, on va revenir sur le match, enfin on va aller sur le match de l'Afrique du Sud et du Cap Vert. Je voudrais vos impressions très rapidement, comme ça on essaye. De boucler ça.
Pour moi, le match sera très ouvert, même si le Cap Vert présente un football très attrayant, mais l'Afrique du Sud aussi, elle est très athlétique. Donc, quelque part, elle ne va pas se le faire faire. Au stade de la compétition aujourd'hui, on ne peut pas parler de faiblesse. C'est-à-dire que c'est un enjeu de taille. Donc, c'est l'équipe qui sera en mesure de déployer tous ses moyens et de concrétiser ses actions pourra crier victoire. Donc, aujourd'hui, je pense que pour moi, franchement, c'est un match qui sera très ouvert. Pour moi, c'est... Voilà. Parce que déjà, l'Afrique du Sud, qui viendra très physique, athlétique. Le Cap-Vert va utiliser, ma foi, un peu de russe. Donc, quelques individualités vont jouer. Donc, moi, je pense que voilà. Donc, c'est un match qui sera très ouvert.
D'accord. Et ton favori?
Moi, je penserais plutôt pour le Cap-Vert.
D'accord. Toi, Cheikh Kenza, dis-nous tout.
Ouais, vraiment, ça serait un très beau match parce que ces deux équipes joueuses déjà, mais qui n'ont pas le même profil. Par exemple, l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui possède beaucoup en contre, hein, qui peut laisser le ballon à l'adversaire et tout ça. Pourtant, le Cap-Vert, c'est une équipe déjà qui aime avoir le ballon, qui aime avoir la domination, qui aime vraiment avec des attaques placées. Par contre, c'est différent. Moi, je vois vraiment que le Cap-Vert peut prendre le dessus si l'Afrique du Sud joue comme ils ont joué avec le Maroc. Parce que le Cap-Vert, c'est une équipe aussi qui est beaucoup réaliste. Et oui, une équipe qui a sorti le Ghana et tout ça, donc avec un match vraiment, un match hyper tonique dans lequel il marque, le Ghana revient au score et en plus il tue le match à la dernière minute, donc je me dis vraiment que je vois un Cap Vert aller en demi-finale.
D'accord, merci Cheikh Kenza. Et toi Salé?
Moi je rejoins Alfred, l'Afrique du Sud c'est une équipe très athlétique qui reste en place et qui va attendre, je pense, le Cap Vert, qui vont laisser jouer même le Cap Vert et ça va jouer là. Après, ça va être un match très serré. Franchement, je pense que c'est un match où on part sur un peu du 50-50. Parce que franchement, c'est deux belles équipes qui ont fait un beau parcours jusqu'à présent. Et moi, je pense que l'Afrique du Sud, attention, faut pas les enterrer. Ils ont été très costauds. Encore une fois, le seul match qu'ils perdent, c'est contre le Mali. Avant ça, ils avaient 14 matchs sans défaite. Et contre le Mali, attention, la première période, ils ont un pénalty raté. Ils ont 2-3 occasions qu'ils mettent au fond. Je pense qu'ils plient le match très rapidement. Une fois qu'ils ont passé le Mali, derrière ils étaient injouables, et là ça va être un bloc, en tout cas équipe qu'il faudra bouger et ça va être très compliqué. Et je pense que moi je mets une pièce en tout cas sur l'Afrique du Sud. Pour moi, l'Afrique du Sud est favorite dans ce match.
Je te rejoins Salé, moi aussi je pense que l'Afrique du Sud demain vont se qualifier face au Cap-Vert. Je pense que le Cap-Vert ça a été ils ont eu un bon, c'était un peu la fougue qui est arrivée, l'équipe surprise. Mais je pense qu'à partir des quarts, il n'y a plus de surprise. Et il faut confirmer. Soit ils confirment et ils disent on est des grands et on veut regarder droit dans les yeux pour aller chercher la CAN, soit non. Et moi, je vois plus l'équipe de l'Afrique du Sud qui sont un peu plus structurées, selon moi, pour aller jusqu'au bout de cette CAN, en tout cas en demi-finale du moins, et qui défiera le Nigeria.
Pour rajouter une chose, attention, l'Afrique du Sud, je rappelle, comme je l'ai dit dans une des dernières émissions, ils ont un coach qui connaît très bien le continent, qui a gagné la CAN avec le Cameroun en 2007, donc ce n'est pas un inconnu. Donc je pense qu'il connaît bien son équipe. Et rappelez aussi que l'Afrique du Sud, elle a quand même pas mal de, peut-être une dizaine de joueurs qui jouent tous ensemble dans le même club. Ils se connaissent, ils sont acclimatés, et ça joue beaucoup. Ça va beaucoup jouer. Moi, franchement, je vois l'Afrique du Sud gagnant.
Mais surtout, il y a le fait de lance de l'équipe qui est Percy Tau, vraiment, qui a de l'expérience aussi. Ça, c'est des choses qui peuvent compter. Voilà, parce que l'Afrique du Sud, c'est une équipe beaucoup expérimentée, comme Salé l'a dit tout à l'heure. Il y a une équipe qui joue ensemble, il y a une cohésion, il y a des joueurs qui se connaissent et tout ça. Mais par moments, dans ces matchs, c'est des choses qui peuvent changer. Parce que là, on a vu vraiment un Cap-Vert vraiment qui a démontré vraiment toutes les qualités. Et moi, je pense que le Cap-Vert a beaucoup de chance. Ils ont pas mal de chance pour gagner ce match.
Mais un match Afrique du Sud-Nigeria, ce ne serait pas facile, hein.
Ça va faire une retour au but. Hein.
Par rapport à vos déclarations, je vous dis, ça va chauffer.
Si ça tourne, en tout cas, je pense que ça va être deux blocs. Je ne sais pas qui va attaquer.
Les Nigériens vont attaquer. Les Nigériens, ils attaquent. Hein. Même s'ils ont un bon bloc, mais ils attaquent.
Ah non, mais quand il arrive, les trois de devant, Simons, Lookman et Osimhen, dans tous les cas, ça reste dangereux. Même malgré qu'ils ont un bloc très défensif, très solide. Devant ça vite, et même Aina et Zedou, ils arrivent à se projeter, ils arrivent à limite à se retrouver à 5 attaquants au final.
C'est donc ça.
Très attention à ce match, potentiellement.
Merci à vous, en tout cas, chers auditeurs et chères auditrices. Du coup, on vous donne rendez-vous demain. Demain, après ces derniers quarts de finale. Et merci à vous, merci à Alfred, merci Cheikh Kenza, merci Salé, merci Jason à l'AREA. Et on vous dit à très bientôt, à demain. Okay, allez, merci. Bonne soirée à vous.
Merci. Bonne soirée.
Quoi ?